Les actualités du sel au micro de David Alonso.
Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle des actualités du sel. Aujourd'hui, avec un angle particulier sur une nouveauté, un jeu que le sel vient d'éditer. Et nous avons avec nous Nicolas Fouquet, chargé de mission éducation et développement. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Un jeu avec la pauvreté, ça peut sembler un peu étonnant, c'est pas quelque chose qui vient spontanément à l'esprit de conjuguer les deux ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela s'est fait et pourquoi cela s'est fait ?
Oui, alors quand au sel on crée des produits de ce type-là, que ce soit des livres ou des jeux, c'est pas dans une visée commerciale ou pour retirer des fonds, mais c'est vraiment pour alimenter la sensibilisation qu'on mène au sel. Et du coup, c'est d'arriver à avoir des outils divers et variés qui puissent répondre aux attentes de notre public pour pouvoir les encourager à alimenter leur réflexion sur les questions de pauvreté et de développement. À travers le jeu de société, l'idée c'était d'aller dans une approche plutôt ludique, donc pour un type de public particulier peut-être, mais de voir qu'au moyen du jeu, il y a des possibilités de s'interroger justement sur les problématiques des personnes vulnérables dans les pays en développement.
Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du jeu ? Il y a eu un temps où le jeu n'existait pas, aujourd'hui il est disponible. Comment est-ce qu'on est passé d'un état à l'autre ?
Oui, alors il y a tout un processus à suivre. À l'origine du jeu, c'est vrai que on réfléchit régulièrement sur les différents outils qu'on souhaite développer au sel et j'avais un peu ce désir-là parce que j'apprécie le jeu de société à titre personnel et je trouvais que c'était un bon outil qui serait pertinent dans le cadre du sel et donc on s'est rejoint avec l'équipe en se disant que voilà la création de quelque chose de ce type-là pourrait répondre à un besoin et permettre à notre public d'aller plus loin sur nos thématiques.
Alors on parle du jeu, mais en fait on ne l'a toujours pas décrit. Ce jeu aujourd'hui, ça correspond à quoi ? C'est quoi les règles ? C'est quoi le jeu ?
Alors le jeu s'intitule Les villageois de Baobila. En quelques mots, le pitch, en fait, on incarne un personnage d'une communauté rurale en Afrique. Donc ce village s'intitule Baobila. Et les années passent, la vie n'est pas forcément facile et les circonstances ne nous épargnent pas. Et donc on va devoir chercher à sortir de la pauvreté le plus rapidement possible. Mais du coup, il va falloir se questionner, voir si on fait le choix de la coopération ou plutôt de l'individualisme, si on opte pour un comportement qui est plutôt éthique ou si on est plutôt pragmatique. Et donc, ainsi de suite, au fil des ans, on va devoir avancer au sein de la communauté pour pouvoir sortir de la pauvreté.
Le jeu dure combien d'années ?
Alors au maximum, le jeu se déroule sur 10 ans, mais 10 ans dans le jeu, ça représente à peu près 3 quarts d'heure. On va dire qu'une partie dure entre 40 et 45 minutes pour les joueurs. Le jeu est un jeu de gestion, donc c'est une mécanique qui est à destination de 2 à 4 joueurs plutôt. C'est un profil de jeu particulier pour ceux qui le connaissent. Et on a mis le jeu pour des personnes de 12 ans et plus, parce que c'est un jeu qui souhaite coller à la réalité, ce qui fait que les règles sont assez étoffées, et donc il faut, oui, on peut dire que 12 ans, c'est un bon âge pour commencer à rentrer dans le jeu.
Alors de ce que j'en ai vu, si on est déjà joueur avant 12 ans, on rentre quand même assez facilement dans le jeu. C'est aussi une question de rapport au jeu.
Oui, c'est sûr que voilà, en fonction des habitudes que l'on a, si on est habitué à côtoyer les mécaniques de jeu, on pourra plus facilement s'approprier les règles. Et effectivement, bien sûr, à l'inverse, une personne qui, même si elle est adulte, n'a pas du tout l'habitude de jouer au jeu, aura peut-être plus de difficultés. Mais après, les premières parties sont toujours des parties où on apprend, et puis c'est en jouant et rejouant que on est d'autant plus à l'aise avec le jeu en question.
Tu pourrais nous décrire un tour ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe pendant un tour ? Qu'est-ce qui se passe pour le joueur, en fait ?
Alors, année après année, les différents joueurs vont reproduire les mêmes phases. Il y en a 5 au total. La première phase correspond à l'événement annuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement qui s'adresse à l'ensemble des joueurs. Et puis, cet événement, il peut être positif comme négatif. Ça peut être, par exemple, une sécheresse, et donc qui va impacter l'ensemble de la communauté rurale. Ensuite, c'est un jeu qui se base sur des cartes, et donc chaque joueur va recevoir différentes cartes, et il va faire le choix parmi ces cartes de celles qu'il activera ou n'activera pas. Donc ça, c'est la phase 2 et la phase 3 également, puisque la phase 3 est basé aussi sur ces cartes, mais avec un aspect plus communautaire. Il y a des bâtiments communautaires que les joueurs vont pouvoir construire ensemble, puisqu'ils font partie de la même communauté. Je vais pouvoir revenir sur ce point aussi par la suite. Et enfin, les deux dernières étapes au courant d'une année, il s'agit de la comptabilité annuelle, c'est-à-dire que tous les ans, les joueurs vont récupérer les ressources qu'ils récupèrent des champs qu'ils ont cultivés ou autres. Ils vont devoir payer ce qu'ils doivent payer. Et puis, en fin d'année, on part du principe que tous les ans, les joueurs doivent se nourrir. Et donc, chaque joueur doit défausser deux portions de nourriture tous les ans. Et donc, chaque année, en fait, on reproduit un peu le même schéma. Et ce qui fait que le jeu est aussi facilement assimilable parce que voilà, la mécanique est répétitive d'une certaine manière.
Alors, tu parles de communauté, un jeu, on perd, on gagne, qui perd ?
Alors, la particularité du jeu Les Villageois de Baobila, c'est qu'il s'agit d'un jeu qu'on pourrait qualifier de semi-coopératif. C'est pas un jeu pleinement coopératif au sens où tout le monde gagne ou tout le monde perd ensemble, mais il y a malgré tout des incitations à la coopération et une réflexion qui est menée à ce niveau-là. Donc comme je le précisais précédemment, il y a des bâtiments communautaires qu'on peut construire ensemble puisque on est un individu mais au sein d'une communauté. Donc il y a des possibilités de dialogue, d'échange avec les personnes qui sont autour de la table. Et puis il y a aussi le fait que dans le jeu, si une personne décède, malheureusement, c'est l'ensemble de la communauté qui perd et donc le jeu s'arrête en fait pour tous les joueurs parce qu'on part du principe que le décès d'un individu est un échec pour l'ensemble de la communauté.
C'est chaud, hein.
Ben c'est un jeu qui permet aussi, voilà, d'introduire le besoin de coopérer les uns avec les autres et de ne pas forcément laisser de côté une personne quand bien même elle serait en difficulté. Après, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que selon les personnes avec qui vous jouez, une partie va prendre une tournure complètement différente parce que on n'a pas tous les mêmes réflexes et la nécessité de coopérer n'est pas toujours la même, parfois, les uns pour les autres.
Alors, tu parles de avec qui on va jouer. Donc, avec qui pouvons-nous jouer ? Ce jeu est destiné à qui ?
Alors, c'est un jeu qui peut s'utiliser dans différents contextes. Vu qu'il s'adresse pour 2 à 4 personnes, c'est un jeu qu'on peut très bien jouer en famille, que ce soit en couple ou avec des enfants. Ou si on reçoit des amis, c'est l'occasion de sortir le jeu. On a aussi créé le jeu en se disant que voilà, ça pourrait être utilisé dans des groupes de jeunes, par exemple, d'église. Il suffit alors peut-être d'avoir 3-4 jeux sous la main et du coup de participer ensemble, chacun à une table, en évoluant et du coup en présentant le jeu à l'ensemble et chacun peut jouer, voilà.
Alors, le jeu est édité par Le Sel. Est-ce que c'est un jeu chrétien ?
Alors, le jeu en tant que tel n'a pas forcément de dimension chrétienne clairement affichée, au sens en fait où il s'agit d'un ensemble de villageois qui coopèrent, qui travaillent ensemble. Et donc, on ne voulait pas forcément inclure une dimension chrétienne qui aille à contre-courant du message qu'on voulait faire passer. Au sens, par exemple, où on n'allait pas forcément créer une carte disant « Voilà, votre personnage prie et puis il est tout de suite guéri. » Parce que ça n'allait peut-être pas forcément dans le sens du message qu'on souhaitait faire passer et qui correspond à ce que l'on pourrait croire. Mais on a quand même malgré tout cherché à introduire cette notion-là. Davantage, en fait, dans le débriefing qui peut être fait après le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez jouer au jeu et puis le fermer, le reposer. Voilà, vous avez passé un bon moment, une bonne partie. Mais ce qu'il est possible de faire aussi, c'est qu'on a intégré un certain nombre de cartes, des cartes qu'on appelle « on en discute » dans la boîte de jeu. Et en fait, il est possible à la fin d'une partie de mettre le jeu de côté, mais de prendre ces cartes et du coup d'encourager la discussion avec les différentes personnes qui étaient en tour de table. Et du coup, là, dans les questions qui ont été mises, il y en a qui font le lien avec la foi. Par exemple, en quoi la partie que j'ai jouée peut changer peut-être ma manière de prier pour les personnes les plus vulnérables après m'être mis à leur place. Est-ce que les choix que j'ai faits, qui parfois étaient peut-être éthiques ou non éthiques, est-ce que j'aurais fait les mêmes dans la vie réelle, puisqu'il s'agit d'un jeu, donc voilà, parfois on peut s'amuser ou en tout cas ne pas coller forcément à qui l'on est vraiment, mais du coup en le transposant dans la vie réelle, est-ce que j'aurais adopté la même attitude, sachant que voilà, ma foi peut guider aussi mon comportement.
À t'écouter, en fait, ce jeu pourrait être un support d'animation dans le cadre d'un groupe de jeunes adultes ou d'activités de week-end, par exemple.
Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on l'a créé. On ne veut pas forcément le restreindre à une utilisation en particulier, familiale, pour des jeunes, pour des adultes ou dans des groupes de jeunes. Mais c'est vrai que le jeu de société est un outil qui se développe de plus en plus depuis quelques années, et tout particulièrement chez les jeunes adultes qui apprécient tout particulièrement cette dimension-là, cette approche ludique. Et donc, on pense évidemment que c'est une partie de notre public qui va être la plus encline et la plus intéressée par les villageois de Baobila.
Alors, ce public aujourd'hui, où est-ce qu'il peut commander ce jeu?
Alors, le jeu, on le trouve sur Internet, sur le site du SEL, selfrance.org. On peut directement le commander et le recevoir chez soi sans frais de port. Le prix est de 34,90 €. Mais on passe aussi par la Ligue pour la lecture de la Bible édition, qui est notre diffuseur, et donc le jeu est accessible depuis la fin du mois de novembre dans toutes les librairies chrétiennes. Donc peut-être qu'à proximité de chez vous, vous aurez l'occasion de le retrouver, ou sinon, ben n'hésitez pas, s'il n'est pas dans la librairie, à leur demander justement à ce que, enfin à leur faire prendre connaissance du jeu Les Villageois de Baobila et à leur demander à ce qu'ils puissent se le procurer.
Merci beaucoup Nicolas, et on souhaite vraiment un bon vent à ce jeu pour qu'il puisse toucher et être joué par le maximum de personnes. On passe maintenant à un petit temps d'actualité avec Daniel Hillion. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors le SEL est partenaire de Michet France et Michet vient aussi de sortir un nouvel ouvrage là qui est en train d'arriver dans les librairies. Est-ce que tu peux nous en parler?
Il s'agit du livre de Tim Keller, Pour une vie juste et généreuse, qui sort aux éditions Farel. Alors c'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire dans sa version anglaise, la version originale, et c'est un livre extrêmement intéressant qui a plusieurs points forts. C'est un livre qui est à la fois biblique, théologique, et qui en même temps est très pratique, et qui peut vraiment faire réfléchir de manière concrète sur ce que ça veut dire pratiquer la justice. C'est un livre qui met en rapport la pratique de la justice et l'enseignement biblique sur la grâce, et je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est un livre qui se situe à un carrefour, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'auteur, c'est quelqu'un qui a su bénéficier des apports de chrétiens venant d'horizons assez différents, ce qui fait que des chrétiens qui ont des perspectives différentes sur la thématique de la justice vont pouvoir trouver de quoi nourrir leurs réflexions et leurs pratiques. Donc je peux vraiment recommander la lecture du livre « Pour une vie juste et généreuse » de Tim Keller.
Où est-ce qu'on peut précommander ce livre aujourd'hui?
Alors vous avez qu'à vous rendre sur le site de Michet France et vous trouverez toutes les informations pour trouver ce livre.
Alors, nous sommes en pleine campagne actuellement pour le SEL, pour soutenir les projets agriculture. Est-ce que tu peux nous en parler?
Le contexte de la pauvreté rurale est un contexte qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et en fait, l'agriculture, c'est fondamental pour chacun d'entre nous. On s'en souvient pas forcément, mais c'est grâce à l'agriculture qu'on mange tous les jours. Et le SEL soutient régulièrement, toujours, des projets de développement agricole, notamment pour renforcer les capacités d'agriculteurs de pays du Sud. Et nous pensons qu'en travaillant dans ce domaine, on travaille sur l'un des domaines de base et l'un des domaines fondamentaux pour de nombreuses personnes qui vivent dans la pauvreté, dans des pays en développement. Et nous avons des partenaires qui font un excellent travail dans ce domaine. Et donc, ça peut être une idée pour vos dons en fin d'année, avant le 31 décembre, de donner pour les projets de développement agricole du SEL. Rendez-vous sur le site du SEL pour donner. Et puis, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, pour suivre la campagne, vous verrez, on présente un sujet qui n'éveillerait pas forcément votre attention à la base, d'une manière extrêmement originale, drôle et en même temps profonde. Alors allez-y, selfrance.org et Facebook pour découvrir les projets de développement agricole des partenaires du SEL.
Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup Nicolas. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'émission d'actualité du SEL.